Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors du lundi au vendredi, vous le savez, il est dans ce studio à mes côtés à la sortie de ses consultations. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à ces bébés nés trop tôt et à leurs parents bien sûr. On reviendra sur les causes principales de la prématurité, même si parfois on ne trouve aucune raison médicale. On parlera aussi de la prise en charge de ces enfants qui est loin de s'arrêter à la sortie de l'hôpital. Ce sont des petits patients, on ne le sait pas, mais qui doivent être surveillés jusqu'à 6-7 ans. On vous expliquera pourquoi et pour en parler dans le détail. Notre invité aujourd'hui, ce sera le professeur Cyril Flamand. Il est chef du service de réanimation et médecine néonatale au CHU de Nantes. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, on va s'intéresser à un bobo courant et qui peut même devenir encombrant parfois, l'aérophagie. Pourquoi certains souffrent plus que d'autres de ballonnement, de gaz? Le docteur Jimmy Mohamed, grand spécialiste du sujet, fera le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de ces problèmes de fertilité qui peuvent parfois être causés par des soucis, des blocages psychologiques.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question qui nous a été posée par Valentin.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'entends souvent parler de l'indice glycémique élevé ou bas et je voulais savoir quelle était la différence entre les deux et surtout savoir si c'était mieux de manger les bas et quels étaient les aliments qui correspondaient à ces indices glycémiques bas. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Alors pour vous répondre Valentin sur cette question précise de nutrition, on n'a pas interrogé Jimmy parce que lui il mange que du l'index glycémique.
Oh, c'est dur,
c'est de la vengeance.
Mais voilà, ouais, vous moquez de moi, vous avez du pâté dans la bouche.
Ouais, voilà,
je connais
ça.
Des orthophonistes très grande qualité. Mélanie.
Alors donc on a interrogé pour vous le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste, on écoute ses explications.
Un index glycémique, c'est le niveau d'élévation du sucre dans le sang par rapport à une valeur de référence qui est le sucre, le saccharose, qui a un index glycémique qui est à 100. Ça sert d'étalon, en fait, de valeur étalon. Donc, cet index 100, et évidemment, c'est un index glycémique très élevé. Donc, si on prend, par exemple, une pomme de terre, la pomme de terre va se situer à un index glycémique de 50. Alors après, si on écrase la pomme de terre, ça peut monter un petit peu en puissance. Si on prend des pâtes al dente, l'index glycémique va être moyen, mais si on les ferait trop cuire, l'index glycémique va s'élever. Mais comme j'ai coutume de dire à mes patients, on ne mange pas un index glycémique. On mange des charges glycémiques, c'est-à-dire on mange un volume. Donc on peut manger peu d'un produit qui est extrêmement sucré, mais dans ce cas-là, ça n'a pas de conséquences nocives sur le corps. Mais par contre, si on mange une charge, c'est-à-dire un volume important, ça peut avoir des conséquences négatives sur notre corps. Donc tout est une question de dose.
Très bien. Alors, c'était le docteur Arnaud Cocolle au micro de Benjamin Lévesque. On va donc passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Zoé. Elle a 32 ans. Elle vit à Strasbourg. On l'écoute.
Bonjour Mélanie. Bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je suis embêtée parce que j'ai la diarrhée depuis 2 jours. Et je voulais savoir comment le différencier en fait d'un symptôme du coronavirus d'une simple gastro. Bah, je vous remercie pour vos réponses et passez une bonne journée. Au revoir.
Alors Jimmy, je peux m'avancer, je pense, en disant qu'effectivement, une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que les troubles digestifs font partie des symptômes de la Covid. C'est vraiment la diarrhée d'ailleurs en particulier, ou est-ce qu'il y a d'autres signes gastro-intestinaux qui doivent y faire penser?
Alors c'est vrai que le coronavirus, ça fait partie un peu comme un couteau suisse des virus. Il donne plein de symptômes et des symptômes digestifs, puisque le virus se fixe sur des récepteurs qu'on appelle ACE2. Vous en avez dans le poumon, mais vous en avez encore plus dans le tube digestif, raison pour laquelle vous pouvez avoir de la diarrhée. Et en général, les gens ont aussi des douleurs abdominales. Et vous avez le droit en plus d'avoir des signes respiratoires comme de la toux, des maux de tête, de la fièvre. Et attention, on n'a pas tous les mêmes symptômes. Donc c'est parfois compliqué de faire la part des choses entre un virus classique et le coronavirus.
Donc pour répondre à Zoé précisément, comment elle peut faire la différence? Elle dit 2 jours de diarrhée. Est-ce que ça peut être le coronavirus ou est-ce qu'elle a juste une simple gastro?
Alors ça peut être la gastro. Déjà, les gastro, il n'y en a quasiment plus ou pas. Parce que
vous n'en voyez pas, vous?
Mais non, je
n'en
vois pas parce qu'il y a des gestes
général,
barrières. Ouais. Donc on fait très attention. Donc ça va dépendre du niveau de circulation du virus. En ce moment, tout signe digestif doit être suspect. Mais il faut savoir quand même que la diarrhée est plus fréquente chez les personnes plus âgées.
Qui ont le coronavirus.
En 40, 50, 60 ans. Et la personne très âgée peut n'avoir que des symptômes digestifs et pas de signes respiratoires. Donc si jamais vous avez que la diarrhée et que vous êtes jeune, je pense qu'il faut quand même s'isoler, parce que si jamais c'était une gastroentérite, vous êtes contagieux. Et au moindre doute, il faut se faire tester, parce que c'est difficile, en temps normal, de faire une distinction entre une rhinopharyngite et le Covid. Alors, entre la gastro et le Covid, ça peut être encore plus compliqué.
C'est vrai qu'on en oublie que les autres virus, potentiellement ceux de la gastro, sont contagieux aussi, et donc il faut faire attention.
Et qu'il faut les éviter aussi, qui peuvent être sévères chez des personnes âgées ou chez des bébés.
Est-ce que vous conseillez, alors bien sûr, elle verra ça quand même avec son médecin, mais dans un contexte actuel d'épidémie, une diarrhée qui dure deux jours, on consulte ou pas?
Je pense
on fait
que c'est
un
mieux, ou on fait une téléconsultation, au moindre doute, les cabinets ne sont pas remplis, et puis au kit, et en attendant, vous faites le régime riz, banane, carotte.
Ça
la banane
bien.
Parce que c'est riche en potassium et vous perdez du potassium quand vous avez de la diarrhée. Éventuellement en antidiarrhéique, mais n'allez pas acheter quelque chose qui va vous bloquer le transit comme l'imodium, le loperamide, parce que ça c'est un transit trop agressif et vous allez avoir mal au ventre. Vous temporisez 2-3 jours, vous vous lavez les mains, il faut bien s'hydrater puisqu'on perd de l'eau. Le risque majeur c'est la déshydratation qui est quasiment exceptionnelle chez le sujet jeune. C'est plutôt la personne âgée ou le bébé qui peut faire des formes sévères et encore une fois vous consulter si jamais il y a le moindre doute.
Elle fait un test ou pas d'ailleurs dans un contexte de diarrhée, dans le contexte coronavirus?
Ça marche pas tant. Les tests rapides, antigéniques, en 15 minutes à la pharmacie avec votre carte vitale, c'est pris en charge à 100%. Si le test est négatif, on est content.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Zoé qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en ligne avec nous notre invité du jour, c'est le professeur Cyril Flamand. Bonjour professeur.
Oui, bonjour. Merci de m'avoir convié à participer à votre réunion.
Eh bien avec plaisir, vous êtes chef du service de réanimation et de médecine néonatale au CHU de Nantes. Et donc avec vous, on va faire un point aujourd'hui sur la prématurité en France. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on qualifie de prématurité précisément? Parce que dans la prématurité même, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Hein.
Oui, tout à fait. Alors un enfant prématuré, par définition, c'est un enfant qui est né avant le terme. La date du terme, c'est 9 mois de grossesse, hein, 40-41 semaines d'aménorrhée. Mais en fait, vous êtes encore considéré comme un nouveau-né à terme quand vous êtes né au cours du 8e mois de grossesse. Autrement dit, si vous êtes né 2 ou 3 semaines avant la date prévue d'accouchement, vous n'êtes pas un enfant prématuré, vous êtes considéré comme un enfant à terme. Et puis après, avant 8 mois de grossesse, alors là vous êtes considéré comme un enfant prématuré, c'est 37 semaines d'aménorrhée. Et puis comme vous le soulignez, il y a des catégories en fait de prématurité. Alors on considère la grande prématurité, c'est une naissance avant 7 mois de grossesse, 32 semaines d'aménorrhée. Il y a l'extrême prématurité, qui est la naissance avant 6 mois de grossesse, donc ça fait 28 semaines d'aménorrhée. Et puis il y a des enfants qui sont extrêmement petits, ce qu'on appelle un peu la limite de viabilité, donc eux ils sont nés à 24 semaines d'aménorrhée, voire parfois même 23 semaines, donc on est vraiment au tout début du 5e mois de grossesse.
Et professeur, est-ce qu'on sait combien d'enfants sont concernés chaque année par la prématurité?
Oui, alors chaque année c'est environ 50 à 60 000 enfants qui naissent prématurément, ça fait à peu près 160 par jour. Donc vous voyez qu'au cours de notre émission, là, qui va durer une heure, c'est de l'ordre de 8 à 9 bébés prématurés qui vont naître dans notre pays. Alors, je voudrais dire que comme tout nouveau-né, un enfant prématuré, c'est quelque chose de merveilleux, hein, c'est un cadeau. Et en même temps, on sait que la naissance d'un enfant prématuré, ben, c'est un bouleversement pour ses familles, c'est parfois même un choc, surtout dans des contextes de grande prématurité. La fréquence de la prématurité en France, c'est à peu près 7%, voilà, sur les 750 000 naissances de notre pays.
Vous dites que ça peut être un bouleversement, une surprise, parce que quand on parle de prématurité, finalement, il y a deux cas de figure. Elle peut être spontanée, c'est-à-dire que tout d'un coup, une maman, elle rompt la poche des os, par exemple, ou elle peut être induite, c'est-à-dire que le corps médical décide qu'il faut que ce bébé y sorte pour des raisons X ou Y. C'est plus fréquent quel type d'ailleurs, que ce soit induit ou spontané?
Ben, c'est à peu près la moitié. Dans la moitié des situations, effectivement, comme vous le dites, il y a une prématurité spontanée, c'est celle qui va survenir après une mise en travail de la maman. Elle consulte pour des contractions utérines avant le 8e mois de grossesse. Alors, on va essayer autant que possible d'arrêter ces contractions utérines. On met ce qu'on appelle les tocolytiques, hein, sauf quand il y a une infection, parce que quand il y a une infection, il faut absolument laisser faire les choses et laisser faire l'accouchement. Mais sinon, dans les autres situations, cette mère qui est en menace d'accouchement prématuré, eh bien, on va lui mettre des médicaments pour arrêter les contractions. Et puis, on va faire un médicament qui a un rôle majeur, qui sont les corticoïdes, lorsque cette menace est avant 7 mois et demi de grossesse, parce que c'est un facteur pronostique qui est important. Donc ça, c'est la prématurité dite spontanée. Et puis, à l'inverse, c'est la prématurité induite ou déclenchée. Là, c'est une situation qui est très différente parce que c'est l'équipe soignante qui va décider de provoquer l'accouchement parce qu'il y a un bénéfice pour la maman et ou pour le bébé.
Un rapport un peu ancien montrait que les naissances prématurées étaient en augmentation. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Alors oui, ça a tendance à augmenter. On est passé de 6 à 7% maintenant des naissances. Alors il y a des techniques de procréation médicalement assistée hein, qui génèrent davantage d'accouchements prématurés. C'est induit davantage de grossesses gémellaires, hein, des jumeaux, voire des triplés. Et ça, on sait que c'est un facteur de risque d'accouchement prématuré. Il y a probablement aussi les conditions socio-économiques qui sont peut-être moins favorables. Et ça aussi, c'est un facteur qui favorise les accouchements prématurés.
Et professeur, est-ce que ce qu'on vit, ce que vous venez de décrire pour la France, en tout cas, est-ce que c'est valable ailleurs, je sais pas, aux États-Unis, en Allemagne, dans les autres pays, on voit aussi cette évolution un peu à la hausse.
Alors, on a effectivement une évolution à la hausse dans les autres pays. Il y a quelques petites distinctions sur les enfants qui sont pris vraiment en limite de terme. On évoquait juste le début du cinquième mois de grossesse. Donc là, il y a quelques différences entre les pays en termes de prise en charge, parce qu'il y a des pays qui prennent dès 4 mois et demi de grossesse. En France, je ne sais pas si on aura le temps de discuter sur les aspects éthiques, mais on considère qu'effectivement, c'est probablement pas très très raisonnable ou un peu de l'ordre de l'acharnement thérapeutique que de prendre en charge aussitôt. Mais sinon, effectivement, globalement, cette augmentation d'incidence à travers le monde, elle est notée.
Alors, on va détailler quelques-unes des causes des naissances prématurées. D'abord, il y a l'hypertension artérielle de la femme enceinte et ses complications. Est-ce que ça représente une grande part des naissances prématurées ?
Alors, c'est une part absolument majeure. Ça fait partie, effectivement, de ce qu'on appelait les prématurités déclenchées hein, ou induites. Hein, c'est ce qu'on abordait à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice à la fois, alors là, pour la mère et pour le fœtus. C'est une mère, en fait, qui va développer une hypertension pendant sa grossesse. Donc, elle n'est pas hypertendue avant la grossesse. Elle développe une hypertension dite HTA gravidique et elle ne sera plus hypertendue après la naissance. Donc c'est très singulier. Mais cette hypertension artérielle, elle va générer deux choses. D'abord, des complications parfois pour la maman. Et puis aussi pour le fœtus, parce qu'en fait, il y a des résistances au niveau du placenta qui deviennent beaucoup plus élevées. Et donc la croissance du fœtus est rendue plus difficile. On a ce qu'on appelle des restrictions de croissance. Et ce bébé est plus petit que le poids attendu pour son terme.
Et dans les grandes causes, alors on va les faire un petit peu en vrac, mais dans les autres causes, il y a quoi ? Il y a les infections. Qu'est-ce qui peut causer encore la prématurité d'un enfant ?
Alors, effectivement, les infections sont une source de prématurité spontanée. La mère s'infecte. Et là, il y a un mécanisme quelque part de normal de l'organisme qui fait qu'il considère que la mère étant infectée, il faut générer des contractions utérines. Alors, c'est des infections cervico-vaginales, c'est parfois des infections générales hein, de l'ensemble de l'organisme, mais le plus souvent, c'est assez local. Hein, c'est effectivement des infections cervico-vaginales qui génèrent en fait ce qu'on appelle une chorioamniotite, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation, une infection du placenta. Et donc là, ça va générer des contractions pour quelque part que la mère accouche. Donc, c'est pour ça que du coup, on ne met pas de médicaments pour arrêter les contractions, parce que c'est l'organisme qui réagit de manière un peu naturelle et physiologique pour permettre l'extraction du fœtus. Donc, c'est vrai que quand il y a un accouchement prématuré un peu inexpliqué, on pense tout de suite à l'infection, c'est une cause majeure. Et puis après, il y a d'autres causes, parfois de la mère, le diabète maternel, par exemple, on est amené à déclencher. Des causes qui sont encore plus tristes, par exemple, c'est un cancer ou une tumeur chez la maman. Il faut débuter une chimiothérapie. Et donc souvent, on va déclencher vers 7 mois et demi de grossesse pour pouvoir débuter le traitement anticancéreux chez cette maman.
Professeur Flamand, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est vous, professeur Cyril Flamand. Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes chef du service réanimation et médecine néonatale au CHU de Nantes. Et donc, on parle de la prématurité avec vous à présent. On va s'intéresser d'un peu plus près aux spécificités finalement de ces enfants prématurés. D'abord, je crois que l'âge gestationnel, c'est-à-dire l'âge auquel naît l'enfant par rapport au déroulement de la grossesse, ça compte bien évidemment, pour la prise en charge médicale qui va suivre. Mais ce que vous allez regarder aussi, si vous allez confirmer si j'ai raison, c'est finalement son immaturité à cet enfant à plusieurs niveaux.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, l'âge gestationnel joue un rôle absolument majeur. Hein. Il est préférable, quelque part, de naître à 7 mois de grossesse qu'à 6 mois ou à 5 mois. Donc ça, c'est un facteur pronostique qui est extrêmement important. Après, on se rend compte que certains bébés paraissent particulièrement immatures alors qu'ils ont le même terme. Parce qu'il y a aussi des facteurs qui viennent se rajouter simplement au terme. Donc le terme est un facteur extrêmement important. Mais on abordait juste avant l'importance de la corticothérapie, c'est-à-dire qu'on va injecter des corticoïdes à la maman avant l'accouchement prématuré. Et ça, on sait depuis maintenant une quarantaine d'années que c'est un facteur pronostique qui est extrêmement important.
Parce qu'un bébé qui naît à 6 mois, qui n'a pas eu ce traitement-là, il a forcément des poumons qui ne sont pas matures, quoi, c'est ça ?
Alors, il a forcément, pas forcément, mais on ne sait jamais. On a toujours du mal un petit peu à individualiser les choses, mais effectivement, c'est un facteur pronostique qui est important. Alors, pour justement cette immaturité respiratoire, parce que c'est celle qui apparaît au premier plan en salle de naissance, on va leur donner des médicaments, un médicament qui est le surfactant. C'est un médicament qu'on connaît maintenant depuis 30 ans et qui joue un rôle très très important parce qu'effectivement, ça permet aux alvéoles, vous savez, ces petites poches quelque part hein, dans les poumons, de rester ouverts. Et donc, le fait de rester ouvert tout le temps permet de favoriser les échanges, l'oxygénation au niveau du poumon. Donc, chez les enfants prématurés, il y a un déficit dans ce surfactant. Et donc, depuis 30 ans maintenant, on injecte dans les poumons du surfactant à ces enfants prématurés.
Justement, ce surfactant qui a révolutionné la prise en charge des grands prématurés, je crois que cette révolution, on la doit au célèbre Kennedy et à sa famille. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, alors en grande partie, c'est-à-dire qu'effectivement, le fils de JFK, hein, qui est Patrick Bouvier Kennedy, est décédé en août 63, donc quelques mois avant l'assassinat de son père, quatrième garçon, et cet enfant était né prématurément à 34 semaines d'aménorrhée, donc on est à 7 mois et demi de grossesse, il fait un peu plus de 2 kilos, donc vous voyez que maintenant, en 2020, c'est vrai que ça semble une prématurité très modérée, mais à l'époque, voilà, les niveaux de soins ne sont pas les mêmes que maintenant, et ce bébé va décéder, on ne sait pas trop de quoi, et puis alors, depuis quelques années, on voyait déjà ce problème un peu de surfactant, mais ça va considérablement accélérer la recherche sur l'immaturité du poumon. Et en l'espace de 30 ans, finalement, il y a eu beaucoup d'argent en Amérique du Nord pour essayer de comprendre pourquoi le fils du président, quelque part, était décédé. Et ça va aboutir à la généralisation du médicament surfactant au début des années 90.
Mais écoutez, on fait un peu d'histoire dans cette émission aussi. C'est quoi les règles en France, d'ailleurs ? On considère qu'on peut prendre en charge raisonnablement un enfant prématuré à partir de quel âge, avec les chances, bien sûr, de le sauver ? Et à l'inverse, à quel âge, à partir de quel limite de poids, d'âge, je ne sais pas, on considère que c'est vraiment trop petit et qu'il y a peu d'espoir.
Alors, la limite de viabilité par l'Organisation mondiale de la santé, c'est 22 semaines d'aménorrhée et 500 grammes. 22 semaines d'aménorrhée, c'est 4 mois et demi de grossesse. C'est vraiment extrêmement petit. En France, on considère qu'effectivement, une prise en charge qui semble un peu raisonnable, elle commence à 23, 24 semaines d'aménorrhée. Donc, on est vraiment au début du cinquième mois de grossesse et au-delà de 500 grammes. C'est vrai qu'à ces termes-là, on est vraiment en limite de viabilité avec des risques encourus qui sont assez élevés. Alors, il y a une amélioration des soins, mais c'est vrai que ça reste difficile sur ces termes qui sont très extrêmes.
Alors, il y a ces histoires un peu fantastiques, mais qui sont pas forcément, qui ne desservent pas trop la cause, à mon avis. Mais c'est ce bébé aux États-Unis qui est né à 250 grammes, qui avait l'air d'aller bien, enfin, selon ses médecins. En France, à 250 grammes, on s'acharne pas. Enfin, je veux pas faire de mal à personne, mais c'est sans espoir.
Oui, alors effectivement, à ce terme-là, en France, il n'y aurait pas de prise en charge. Il a probablement survécu, non pas parce qu'il était, il était forcément très immature, mais en fait, il avait un retard de croissance. C'est-à-dire que c'est un bébé, en fait, qui n'était pas né à 22 ou 23 semaines d'aménorrhée, mais qui était né à 26 semaines d'aménorrhée. Donc lui, quelque part, il avait déjà 5 mois et demi de grossesse.
Oui.
Il n'est pas vieux, hein.
Mais un retard de
croissance. Il était un peu plus immature, mais avec un gros retard de croissance. Et ce qui explique probablement cette prouesse, si tant est que c'est une prouesse, hein, parce que ça, effectivement, soulève beaucoup de questions éthiques.
Bien sûr. Et vous pensez, pour terminer sur cette partie-là, qu'avec les progrès de la médecine, qui viendront peut-être encore, on va pouvoir, en France, pour le coup, prendre en charge des enfants encore plus petits. Je ne sais pas si on se projette un peu dans une espèce de médecine de science-fiction avec peut-être, j'en sais rien, des utérus artificiels qui permettraient de terminer la grossesse qui est plus possible dans le ventre de la maman. Enfin, on peut imaginer des choses comme ça ou c'est totalement futuriste ?
Je pense que c'est assez futuriste. Hein. Est-ce que c'est souhaitable ? C'est aussi une autre question qui va avec. Il y a des progrès, hein, très nettement, qui ont été notés, sur lesquels on reviendra sur l'implication des parents. Il y a aussi beaucoup de progrès qui sont liés, j'aurais souligné, à l'implication des paramédicaux, hein, des infirmières, des infirmiers puéricultrices, qui vraiment sont très impliqués auprès des enfants, auprès de leurs parents. Et les soins délivrés par les infirmières et les puéricultrices sont absolument majeurs dans la prise en charge de ces enfants prématurés. Hein. En termes de positionnement du nouveau-né, ils sont mis dans des cocons, il y a les dispositifs de ventilation nasale. Vraiment, une grande partie de la prise en soin des enfants prématurés repose sur les infirmières et les puéricultrices. J'oublie bien sûr l'ensemble des autres personnels, hein, des kinés, des orthophonistes, psychologues, assistantes sociales. Mais on voit bien que tout ce qui tourne autour de l'enfant en termes de soins paramédicaux est absolument majeur dans notre discipline.
Professeur Flamand, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité en ligne avec nous, c'est le professeur Cyril Flamand. Je rappelle que vous êtes chef du service réanimation et médecine néonatale au CHU de Nantes et que vous nous éclairez cet après-midi donc sur la prise en charge de la prématurité en France. Alors les progrès dans la prise en charge de ces bébés nés trop tôt, voire même beaucoup trop tôt, on les doit à certains médicaments, on en a parlé, on les doit bien sûr aux médecins, aux équipes soignantes, mais ce qu'on sait moins, c'est que l'environnement de soins de ces enfants aussi est très important et s'est amélioré. Aujourd'hui, on soigne beaucoup plus par exemple la lumière, l'environnement sonore, ça veut dire quoi concrètement dans vos services, dans le vôtre même ?
Oui, bah vous avez raison. Concrètement, ça veut dire qu'on essaye en fait de limiter des stimulations inadaptées. Hein. Il faut se rendre compte qu'ils sont encore très très petits. Et donc, on essaye d'adapter un environnement lumineux et sonore à ce qui est en capacité de pouvoir recevoir ces enfants qui sont nés très prématurément. Et donc, ça veut dire en pratique qu'on met ces chambres en partie dans la pénombre. Avec les semaines qui avancent, on augmente au fur et à mesure la luminosité dans la chambre. On essaye de limiter les agressions sonores également, les bips par exemple des machines. Alors, c'est parfois pas évident hein, parce que effectivement les situations parfois d'urgence l'exigent, hein, tout à fait. Mais l'idée, c'est vraiment de dire que il faut être vraiment de stimuler cet enfant quand il est en capacité de pouvoir recevoir. Et donc, effectivement, tout ça renvoie à ce qu'on appelle les soins individualisé aussi de développement.
Bah, c'est vrai que alors, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir un bébé qui est né grand prématuré. J'ai le souvenir aussi, l'équipe a été formidable, qu'on respecte aussi, ça paraît tout bête, mais la nuit, il fait nuit, donc on éteint les lumières, on fait moins de bruit, on marche doucement. Et puis la journée, non pas qu'on va plus les stimuler, les agresser, mais on est un peu plus tonique, on est plus vigilant. Mais c'est vrai qu'il y avait une attention particulière sur le bien-être du bébé, le fait d'être doux. Et on avait consacré l'émission au pouvoir extraordinaire de la musique. Et je crois qu'aussi que la musique, ça peut aider les bébés prématurés.
Tout à fait. Alors, c'est le principe de la musicothérapie. Alors, peut-être pas non plus vraiment chez les bébés en limite de viabilité, mais au fur et à mesure où ils avancent en termes, effectivement, on sait qu'on a des réponses qui sont très favorables à cet environnement musical.
Il y a eu des
musical,
études hein, sur avec, le sujet scientifique, même, je crois, en Suisse. On avait parlé de travaux suisses où on faisait écouter des bruits zen, de la musique classique, je crois, enfin, des choses très, très douces.
Exactement.
Quoi.
Ils reconnaissent parfois aussi les musiques que les parents ont écoutées in utero. Hein, donc, ça, c'est quand même très, très, très singulier. Et donc, effectivement, ça fait partie effectivement des progrès au même titre que ces soins individualisés de développement, c'est-à-dire que comme vous le soulignez, c'est-à-dire qu'on a effectivement des soins qu'on ne va pas caler sur l'équipe soignante, mais davantage sur le nouveau-né. Hein. Il n'y a pas des horaires fixes, par exemple, d'alimentation. C'est plutôt quand l'enfant effectivement va être réveillé, va nous présenter quelques signes d'éveil qu'on va l'alimenter.
Pareil donc, pour le bain, ce n'est pas à une heure donnée pour tous les bébés, c'est en fonction de l'enfant lui-même, hein, c'est ça ?
De l'enfant et de ses parents aussi, on va y probablement y venir, parce qu'ils sont justement, acteurs de soins. Et donc, effectivement, on attend parfois et on décale les soins pour attendre les parents pour assurer le bain.
Justement, vous y venez, on parle du rôle des parents aussi, qui est très important dans la prise en charge de ces enfants. On le sait depuis quelques années, mais ça s'accentue ces derniers temps. Ils sont, vous dites, je crois, des soignants à part entière.
Ah ben oui, enfin, ils sont vraiment des partenaires de soins, ils sont acteurs de soins, hein, et donc il va falloir laisser toute leur place, et on le fait en fait très tôt dans la prise en soin de ces enfants prématurés. On a la possibilité, alors notamment grâce à une association de parents qui est SOS Prématurés, de pouvoir disposer de fauteuils, de façon à ce que dès la naissance de cet enfant, dès la salle de naissance, même s'il ne fait que 500 ou 600 grammes, il va être transporté contre son papa, en peau à peau, vers l'unité de réanimation ou l'unité de médecine néonatale. Donc l'implication des parents, elle commence dès les premières minutes de vie par ce transport en peau à peau, et puis elle va se poursuivre par des peaux réguliers, bien sûr, avec la maman, avec un soutien important à l'allaitement maternel, ça c'est absolument essentiel, parce que on sait que l'allaitement maternel est un facteur pronostique majeur en termes de neurodéveloppement à 2 ans et à 5 ans. Donc on soutient aussi ces mères qui souhaitent allaiter, et c'est un bénéfice pour ces enfants prématurés, qu'il est important de souligner.
Et puis on est aussi, vous le dites, acteur des soins. On nous fait prendre la température, on nous fait changer les capteurs lorsqu'il faut les changer, parce que
c'est
régulièrement.
Pas parce que vous étiez médecin, Jimmy, on fait faire ça.
Oui, on faisait ça à tous les parents. On les aide à changer de position le bébé pour pas qu'ils aient. On les change de position régulièrement. Donc en fait, on est vraiment acteur et on permet aussi aux parents d'être là le plus longtemps possible, quasiment 24 heures sur 24 quand c'est possible. Justement, on aménage des petites choses. Il existe des chambres qu'on peut louer. On nous avait proposé ça dans l'hôpital ou à côté, justement, pour que les parents soient le plus présents possible.
Tout à fait. On essaie à la mesure du possible alors il y a des maisons des parents. Il y a aussi dans les chambres de réanimation un lit dédié pour les parents, hein, de façon à ce qu'il y ait un espace. Alors en Europe du Nord, ils sont assez en avance sur nous, mais on y vient largement dans nos unités de réanimation. Hein. Et on a effectivement, par exemple, à Nantes, ici, on a un lit dans chaque chambre de réanimation pour que les parents puissent se reposer, faire du pot à pot en position allongée ou dormir. Hein. Il y a des parents effectivement qui sont là 24 heures sur 24. Alors c'est toute une organisation parce que parfois il y a le reste de la famille et c'est tout ce soutien-là aussi auquel on prête attention. On a toutes les semaines un staff psychosocial pour essayer de voir justement avec la psychologue et l'assistante sociale comment aider ces familles en termes d'environnement. Et je voudrais juste souligner qu'on est en pleine pandémie Covid, mais que la Société française de néonatologie très tôt, dès le premier confinement, a dit les parents sont des acteurs de soins, c'est indispensable qu'ils soient présents dans nos unités et donc d'autoriser ses parents, même en pleine période de pandémie, à se rendre à l'hôpital pour aller voir leurs enfants prématurés.
Et donc, il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire que les parents pourront, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, futur papa, future maman, ils pourront venir en même temps, les deux, masqués à l'hôpital sans problème ?
Avec le respect des règles sanitaires, bien sûr, hein, mais la recommandation de la Société française d'onatologie, c'est celle-là, c'est d'accueillir les parents, même en période de pandémie, parce qu'on considère que c'est extrêmement important qu'ils soient présents à côté de leur enfant.
Et professeur, je reviens sur cette implication, sur ce rôle des parents qui est très important. Alors au-delà du fait que, bien sûr, c'est heureux, on est content pour eux qu'on puisse les impliquer davantage aujourd'hui, mais c'est vraiment prouvé scientifiquement que ça fait du bien physiquement à ces enfants. Il y a des études sur le sujet ?
Ah, tout à fait, il y a beaucoup d'études même sur le sujet. Hein. Encore récemment, le mois dernier, il y a eu une étude effectivement chinoise sur plus de 600 enfants prématurés dans 11 unités de réanimation qui ont montré que dans le groupe où les soins étaient centrés sur la famille, on avait une meilleure prise de poids, une durée d'oxygénothérapie qui est plus faible, plus d'allaitement, moins de réhospitalisation. Donc vous voyez que pendant l'hospitalisation, on voit déjà cet effet-là. Et puis il y a une étude canadienne, aussi parue le mois dernier, qui a montré sur près de 200 enfants prématurés qu'à l'âge de 1 an et demi, eh bien, on a des scores de développement qui sont meilleurs, on a moins de stress parental. Donc vraiment, il y a des données scientifiquement prouvées maintenant sur l'importance des soins centrés sur la famille.
Et justement, on se projette un petit peu. Une fois qu'on sort de l'hôpital, on a l'impression que le combat est gagné, sauf que c'est des enfants qu'on va devoir suivre encore pendant très longtemps. C'est ça, jusqu'à quel âge on doit suivre un enfant qui est né prématuré ?
Tout à fait. Alors parfois, ils sortent un peu plus tôt parce qu'on essaie de développer des unités mobiles d'hospitalisation, ce qu'on appelle un peu d'hospitalisation à domicile. Et ça, c'est important parce que un peu plus tôt, comme ça, l'enfant prématuré retrouve le cercle familial, le domicile en tout cas. Et puis après, vous avez tout à fait raison, ces enfants sont quand même vulnérables et sont à risque de présenter des difficultés dans leur développement. Et donc, il y a des réseaux de suivi d'enfants vulnérables dans toute la région. Et la quasi-totalité des régions suivent l'enfant jusqu'à l'âge 6-7 ans. On attend effectivement l'apprentissage de la lecture du CP. Alors, avant 2 ans, c'est principalement une activité motrice, comment l'enfant est en capacité de pouvoir se déplacer ou marcher.
Comment il grandit, j'imagine, on regarde la taille, le poids, tout ça, c'est important de les suivre médicalement, physiquement. Et puis ensuite, c'est un peu différent.
Exactement. Et après, c'est plutôt de l'ordre du cognitif, c'est-à-dire des apprentissages. Comment l'enfant est en capacité de pouvoir apprendre, interagir sur le plan social, en petite, en moyenne section de maternelle. Et donc, on a des batteries de tests pour essayer d'évaluer ça et de mettre en place. Et là, c'est le rôle des orthophonistes, des psychomotes, des ergothérapeutes, des psychologues, tout ça, qui viennent nous aider pour améliorer la prise en soin de ces enfants prématurés qui ont effectivement besoin d'être suivis longtemps.
Pour terminer, professeur Flamand, c'est quoi les gros enjeux, les pistes d'amélioration encore, s'il peut y en avoir, pour donc améliorer les choses pour ces bébés prématurés dans les années à venir ?
Ben, je crois que l'idée, c'est dans le futur, c'est de continuer un peu effectivement cette implication plus importante des parents, parce qu'on voit que parfois les nos-locaux sont exigus, donc il va falloir qu'on fasse une part encore plus large aux parents. Peut-être en termes de neuroprotection, parce qu'on a fait beaucoup de progrès, on a abordé le surfactant, les corticoïdes pour le côté respiratoire. Sur le plan neurologique, on a fait très très peu de progrès. Il y a malheureusement des complications, parfois des hémorragies au niveau des cerveaux, des choses comme ça. Et ça, il y a toute une thématique de recherche à assurer. Et puis ça permettra probablement d'améliorer un peu ces enfants qui sont en limite de viabilité, juste 5 mois de grossesse. Et là, je crois que c'est un pan de recherche qui est extrêmement important. Donc beaucoup de choses à faire et donc l'avenir nous appartient et voilà, l'avenir à ceux qui nous écoutent et qui veulent s'engager comme ça sur la prise en soin des enfants prématurés.
Merci beaucoup professeur Flamand d'avoir été en ligne avec nous cet après-midi pour cet éclairage sur la prématurité. Bonne continuation à vous et merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors, il est temps de passer, vous le savez très bien, il est 15h44, à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, une question qui a motivé la séquence qui va suivre, c'est Johan qui nous l'a laissée sur notre répondeur. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Je suis votre émission depuis pas mal de temps et vous traitez des maux et des maladies au quotidien. Et moi, j'ai un petit problème depuis quelques temps. Je souffre d'aérophagie. Je voulais savoir ce que c'était réellement. Comment ça arrive ? Est-ce qu'il faut se retenir ? Et surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est quand consulter, parce que j'ose pas vraiment. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Bonne journée.
Bon, Jimmy, alors même si on a tous une petite idée, c'est mieux quand c'est clair et précis. L'aérophagie, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut se retenir ?
Alors, l'aérophagie, ça vient du latin ou du grec, je ne sais plus. Ça vient de aéro, de l'air, et phagie, manger. Donc, c'est littéralement manger de l'air dans le tube digestif. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on déglutit plus de 1000 fois par jour lorsqu'on avale sa salive, lorsqu'on mange des aliments.
Quand on parle beaucoup, on déglutit aussi.
Exactement. Donc, à chaque fois, on ingère un petit peu d'air. Et cet air, il va aller dans le tube digestif et parfois, il va ressortir. Soit par le haut avec l'aérophagie, soit par le bas, vous le savez très bien Mélanie, avec les flatulences.
Oui, bien sûr.
Et donc, à ce moment-là, on va avoir dans le tube digestif de l'air en quantité raisonnable de 200 à 500 ml de gaz. Ça ne pose pas de problème, mais je crois que certains en ont un peu plus. Et à ce moment-là, quand il y a plus d'air, il y a de l'inconfort, il y a du ballonnement. Et donc, on peut souffrir d'aérophagie. Et à ce moment-là, on parle de on peut avoir en plus des ballonnements ou des flatulences.
Je vois que vous connaissez très très bien le sujet. Jimmy, quand on a, comme certains, ce trop-plein de gaz, donc on va dire, dans l'estomac, est-ce que c'est dans l'estomac d'ailleurs ou dans le tube digestif vraiment ?
Exactement. Alors, ça arrive déjà pour plusieurs raisons. On peut déjà avoir mangé beaucoup trop ou avoir une salivation inappropriée parce qu'on a un problème dentaire. On a un dentier qui peut du coup poser des problèmes pour la mastication. Certains vont manger beaucoup trop vite ou consommer trop d'aliments qui vont favoriser la fermentation ou avoir un excès de boissons gazeuses. Et du coup, on peut avoir un peu plus de flatulence et du coup un inconfort avec un sommeil un peu perturbé. Mais en règle générale, avec quelques mesures simples, on finit par y arriver et vous allez voir, Mélanie, vous allez vous en sortir.
Vous savez, justement, on va en venir au traitement, à toutes vos solutions, évidemment, à ces problèmes. On fait quoi ? Il y a des médicaments d'abord ? Parce que bon, les astuces, vous allez nous les donner après.
Alors tout d'abord, dans un premier temps, on vérifie qu'il n'y a pas de problème médical pour être sûr qu'il n'y a pas une pathologie qui nécessiterait une prise en charge particulière. Et puis si jamais c'est des petits troubles digestifs classiques, on peut essayer des traitements pas agressifs comme du charbon qui peut aider certains patients à avoir moins d'aérophagie. Du coup, ils auront moins de gaz. C'est sans ordonnance. À la sortie de l'émission, Mélanie, vous pouvez y aller.
D'accord. Alors sinon, vos conseils maison, vos conseils de grand-mère, ce que vous avez dans votre famille depuis très très longtemps, c'est
ceux qui se transmettent de génération en génération.
Chez les Mohamed.
10 ans d'études de médecine pour vous expliquer ce que c'est que l'aérophagie. Alors, quand on a trop d'excès d'air, et bien donc c'est qu'il y a un excès de déglutition. Et donc, dans un premier temps, pour essayer d'avoir moins d'air, essayer de manger plus lentement en mastiquant soigneusement.
Oui, vous avalez, vous, votre sandwich tous les midis, je le vois bien.
Exactement.
C'est pour ça, ça,
et c'est
ça
pour
explique
ça
tout.
Que j'ai des petits ballonnements. Et donc, à ce moment-là, vous allez bénéficier en plus des nutriments contenus dans l'alimentation. Si jamais, c'est pas encore votre âge, Mélanie, mais si jamais vous avez un appareil dentaire, eh bien, il faut bien vérifier qu'il est bien en place et bien adapté. Et puis, je vous avais parlé de certains aliments qui pourraient favoriser l'aérophagie. C'est des aliments qu'on dit qui sont un peu trop aérés, comme le pain de mie, la meringue ou les pommes, ainsi que les boissons gazeuses. Et puis après un repas, il ne faut pas hésiter à marcher. On a le droit, on a le droit à une heure par jour, 15 minutes après chaque repas. Et à ce moment-là, le tube digestif vous remercie. Et vous allez voir, Mélanie, vous m'avez dit que vos petits problèmes d'aérophagie vous empoisonnez la vie. Mais nous allons y arriver, je vous le promets.
D'abord, est-ce que vous, tout ça, ça marche ? Est-ce que vous allez mieux ?
Oui, ça marche. Je n'ai plus de flatulence. Et quand je pète, ça fait plus de bruit, plus d'odeur. Et donc, on est content.
On est content. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. On est ravis d'avoir toutes ces informations. Merci.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et vous êtes avec nous depuis 15h. Catherine Blanc est à présent avec nous en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste aujourd'hui. Catherine, on aimerait parler des problèmes de fertilité. Il peut y avoir des causes psychologiques, vous dites ?
Alors oui, il peut y avoir des causes psychologiques. Bien sûr que c'est toujours un peu compliqué quand il y a une problématique qui normalement ne s'inscrit que dans le corps. On a tendance bien évidemment à écouter ce que le corps raconte et de ses limites. Et là est tout l'art de la médecine. Pour autant, notre corps est aussi guidé par notre psychisme. C'est-à-dire que s'il y a un enjeu particulier à la fertilité dans notre histoire personnelle qui crée des peurs, le psychisme va utiliser la fragilité du corps et va développer
des blocages
oui. pour pouvoir justement se protéger de ce qui l'inquiète malgré le discours officiel qui est le désir d'enfant.
Il y a toutes ces histoires de couples, je ne sais pas si vous en avez entendu déjà, Jimmy, ces couples qui essayent d'avoir des enfants qui n'y arrivent pas, qui adoptent et qui tout d'un coup finalement ont un enfant aussi biologique. Ça aussi, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui de ce ressort-là qui existe.
Oui, mais c'est compliqué justement puisqu'on ne peut pas le prouver et c'est le côté frustrant de savoir quelle est la part entre des choses qu'on ne connaît pas médicalement et ce stress, parce que c'est difficile de... Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est un problème lié à un problème psychologique, une infertilité, pardon, un problème psychologique, et est-ce qu'on connaît la part justement des infertilités qui sont causées par des problèmes d'angoisse ?
Alors, vous avez raison, c'est très difficile parce que nous opposons là un métier de science et donc de mesure à un métier psychologique qui ne va lui réfléchir que sur la clinique qui est la sienne et n'aura rien d'autre à argumenter que sa clinique. Et évidemment qu'il n'y a que ceux qui sont passés par justement le processus, bien sûr d'aide médicale, mais aussi pour certains qui étaient limités par la médecine et qui ont fait un travail de compréhension, qu'il y avait du sens en tout cas à ne pas engendrer ou à ne pas tomber enceinte. Et donc de fait, voyant qu'ils comprenaient le sens et ils s'apaisaient sur le sens, tout d'un coup, les possibles s'ouvraient. Et ça, c'est assez touchant parce qu'il peut y avoir des tas de choses. Parce que, par exemple, des choses très simples. Hein. Par exemple, je pense à des patientes qui ne pouvaient pas tomber enceinte parce que tomber enceinte, dans un lien trop intime avec leur famille, leurs parents, tomber enceinte était l'officialisation d'une sexualité. Et que ça n'était pas possible de montrer...
Mais ça, de manière consciente, parce que bon, on tombe pas enceinte, mais on se doute bien que les parents imaginent bien que quand on est en couple et qu'on essaie d'avoir un bébé, on a des relations sexuelles quand même.
Oui, mais c'est pas... Mais ça, c'est encore une fois, c'est notre lecture, nous, j'allais dire, la lecture même de chacun d'entre nous quand on voit la masse de la société. Ouais. Mais quand on est dans son intimité relationnelle, il y a des enjeux émotionnels très forts d'appartenance à ses parents, de besoin de rester l'enfant, de ne pas devenir un parent soi-même, la peur d'être un mauvais parent, si on a eu des mauvais parents, si on a la peur de devenir... Voilà, exactement. Ouais. Ça peut être aussi la peur de ce que raconte une grossesse. Si, par exemple, je suis née et ça a été une douleur pour ma mère, la grossesse ou une violence ou une déprime ou une maladie pour ma mère, la peur moi-même de subir l'alien que serait un enfant, et bien tout d'un coup, il y a tout un processus qui peut aller jusqu'à une infertilité. C'est d'ailleurs pour ça que quand les gynécos ont fait un peu le tour de toutes les raisons, surtout quand ils ne trouvent pas de raisons palpables, qu'on a évidemment évalué les raisons physiologiques qui pourraient être à l'origine, et bien souvent ils font appel aux psys pour essayer de comprendre. Et c'est en général ce faisant, le soin même médical est tout d'un coup accueilli dans cette possibilité-là.
Du coup, ça veut dire que ce n'est pas forcément lié à un stress quand on peut le vivre en ce moment avec le coronavirus, le stress des attentats. C'est une peur vis-à-vis de la parentalité. Par exemple, si on n'a pas confiance en son partenaire, si on pense qu'il va peut-être nous quitter ou qu'on n'est pas très à l'aise, il est possible que physiologiquement, notre système hormonal se mette un peu en silence et qu'on n'ait pas d'enfant.
Oui, mais vous savez, et vous le dites très justement, notre système hormonal peut se mettre en silence. On le voit déjà chez les adolescentes qui, sans être pour autant anorexiques, se retrouvent dans des périodes d'aménorrhée, alors qu'il n'y a pas alors qu'il n'y a pas de raison, elles sont en bonne santé, mais elles ont vécu un moment de stress où elles rentrent dans une sexualité ou dans une relation, elles flirtent et tout d'un coup, hop, s'arrêtent les règles. Comme si elles avaient peur de l'aboutissement de ce flirt et qu'il leur fallait encore un temps de latence avant de pouvoir passer à quelque chose qui puisse donner lieu à une génitalité fertile. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses. Ça peut être effectivement le partenaire, ça peut être si c'est sa demande, ça peut être... Enfin, il y a énormément de raisons ô combien légitimes qui demandent à être accueillies avec bienveillance sans qu'on dise que c'est dans la tête. C'est pas parce que c'est psychique que ça ne mérite pas toute l'attention du monde.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Est-ce qu'on n'est pas deux amis improbables, Stéphane?
Bah oui, bien sûr, mais comme ceux dont on va parler dans l'émission Historiquement Vôtre. Georges Clémenceau et Claude Monet, et moi je vous parlerai aussi d'Edith Piaf et de Jean Cocteau.
Quant à
et
moi,
vous, Mathieu?
Moi je vous parlerai d'un ancien camarade de classe à moi. Il était au collège en Suisse à mes côtés, Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, son meilleur ami, Dennis Rodman, le basketteur fou.
Très bien, nous on adore les amis, on est très amis avec Jimmy, donc une émission tout à fait pour nous. On va vous écouter bien sûr, et vous aussi je vous le conseille, restez sur Europe 1.